pense à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Belmont-sur-Rance, 93.1.
Et il est 12h, passé d'une petite minute à la pendule de Présence. Et comme tous les jours, c'est l'heure du Présence Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Un petit rayon de soleil actuellement sur les studios de Lourdes. Cela fait plaisir. Je vous le partage et je vous le souhaite également, où que vous soyez à l'écoute des programmes de Radio Présence. Dans cette heure que nous allons passer ensemble, eh bien, la chronique verte de Benoît Guillard nous fera découvrir ou redécouvrir Jean-Luc Bongiovanni. C'est un agriculteur qui a fait le choix d'une agriculture de régénération. Nous en saurons un petit peu plus juste après les titres des informations dans quelques secondes. Le coup de cœur en librairie nous permettra d'aller avec le frère Martin de l'abbaye de Tournai à la rencontre de Nicolas Saint-Aubin. Ce sera l'auteur du livre que nous allons découvrir aujourd'hui. Adeline Tesserinck nous fera, elle, découvrir le CCFD. Ce sera le sujet de la chronique solidaire de Anne Deslois. Et enfin, Louis le bon Didier, vous connaissez ? Ben tant mieux, parce que moi je ne le connais pas et je me propose de vous le faire découvrir aux alentours de 12h50. Il sera l'auteur mis à l'honneur par Catherine Albrecht dans sa chronique des écrivains célèbres qui ont écrit sur nos belles Pyrénées. Voilà le programme que je vous propose de débuter tout de suite.
Dès aujourd'hui, l'Envol des pionniers ouvre l'exposition éphémère en hommage à Alexandre Coyonneau, fidèle coéquipier de Jean Mermoz. Mécanicien au sol puis à bord, Alexandre est l'un des acteurs phares de l'aventure de l'aéropostale qu'il a marqué par son audace. Le Musée d'Air France met également en lumière le collectif de femmes et d'hommes liés de ce domaine. L'abbaye de Flaran à Valence-sur-Baïse lance un grand concours de poésie. À l'occasion du Printemps des Poètes, ce concours est placé sous le thème de la liberté, force vive déployée. Tous les poètes confirmés ou amateurs et âgés de plus de 16 ans sont les bienvenus. Si vous souhaitez participer, les poèmes sont à envoyer avant le 1er mars à l'adresse suivante à lafitte@gers.fr. À Decazeville, les jardins suspendus ouvrent leurs portes au public. Dotés d'une esplanade végétalisée de 300 mètres de long, d'une aire de jeu pour enfants et d'un terrain de pétanque, ces jardins ont été pensés pour tous les publics, y compris pour les personnes à mobilité réduite. Des œuvres de street art ornent des installations dans les jardins et la nuit, une citation « Pense à rêver » est projetée sur un mur de soutènement historique des Hauts Fourneaux. Ce week-end, la station de ski de Luz-Ardiden accueille la première édition du Luz Winterfest. Quelques 6000 festivaliers sont attendus durant les deux journées de cet événement, au programme de la musique électro avec des artistes comme Kavinsky, Bon Entendeur ou encore Feder, le tout couronné par un feu d'artifice dans le ciel des Hautes-Pyrénées. Pendant la journée, les festivaliers pourront profiter des 60 km de pistes de ski et de multiples activités, le tout pour bien commencer ses vacances d'hiver.
Le journal complet nous sera présenté par Lou Denneville, donc aux alentours de 12h30.
Présence à Superbagnères, 94.
Et direction le département des Hautes-Pyrénées avec la chronique verte de Benoît Guillard.
La chronique verte.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouverons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Cette semaine, J'ai fait le choix de me rendre à Sarriac-Bigorre. Sarriac-Bigorre, un village situé entre Vic en Bigorre et Rabastens de Bigorre. Et pour continuer dans la thématique que nous avons partagée depuis quelques semaines, à savoir la décarbonation de notre territoire et plus particulièrement l'agriculture de régénération ou agriculture régénératrice sur notre territoire. Et donc je suis chez Jean-Luc Bongiovanni. Bon, Jean-Luc Bongiovanni, chers auditeurs, on l'a déjà rencontré à deux ou trois reprises dans ses témoignages et je voulais revenir un petit peu chez lui pour vraiment recueillir son témoignage et voir un petit peu la réalité de sa pratique par rapport à ses enjeux, puisque Jean-Luc a été d'abord un agriculteur conventionnel, puis il a fait le choix, il y a quelques années déjà, de modifier complètement son schéma d'agriculture, et donc il peut aujourd'hui témoigner avec recul sur ce qu'il porte. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Benoît.
Peut-être expliquer un petit peu l'exploitation et puis la démarche entreprise depuis une quinzaine d'années maintenant.
Oui, alors l'exploitation aujourd'hui, je suis sur une exploitation qui compte 95 hectares de céréales, tout en bio et en conservation des sols, et un élevage de canards prêts à gaver et un élevage de poulets en circuit court, en prêt à cuire. Voilà, donc en agriculture et conservation des sols depuis les années 2000, tout début des années 2000, où j'étais en ce qu'on appelle les TCS, techniques culturales simplifiées, qui n'ont rien de simple, que le nom. Et puis ensuite, un passage en agriculture biologique, dans un premier temps, suite à un remembrement en 2008 sur une partie de l'exploitation, c'est-à-dire toutes les terres qui sont retrouvées proches des habitations, et le passage de l'ensemble de la superficie en 2017 en agriculture biologique.
Alors Jean-Luc, pour nos auditeurs, bon, une agriculture de régénératrice ou de régénération, c'est d'abord avoir le souci du sol, de la vie du sol, et je pense que vous allez nous expliquer un petit peu votre regard, les indicateurs que vous avez autour de ça. Et puis ensuite, bon, ce qui est intéressant et ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment avoir un petit peu au bout de ces années le bilan que vous faites de ces choix, à la fois sur la partie environnementale bien sûr, mais aussi sur la partie économique.
Alors oui, alors d'abord j'aimerais juste préciser les mots. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle d'agriculture régénératrice. Quand j'ai commencé à m'y intéresser, Michel Griffon du CIRAD nous parlait d'une agriculture écologiquement intensive. Puis en 2012-2013, avec le ministre de l'Agriculture, Le Foll, donc c'était en 2014 je crois, ouais, on nous a parlé d'agroécologie. Donc et aujourd'hui on parle d'agriculture régénératrice, donc et c'est exactement la même chose, seulement il y a des mots qui disparaissent, donc ça c'est aussi un signe des temps. Ben le principe en fait c'est dans un premier temps considérer le sol comme un acteur et non plus comme un support. Ça c'est se dire que notre sol est capable de fournir ce qu'on a besoin pour les plantes, pour nos plantes que l'on cultive. Bon, cela dit, il faut l'aider. L'aider par de l'apport de matière organique. Donc, c'est basé sur un minimum de travail du sol et un maximum de couverture de sol par des plantes qui vont transformer l'énergie du soleil en carbone qui va nourrir les sols et qui va nourrir les plantes que l'on va semer pour récolter.
Donc, dans le contexte, plus d'azote de synthèse, mon bio, donc plus de désherbant.
Oui, voilà. Alors, aujourd'hui, donc plus d'azote de synthèse. Alors, quand j'étais en conventionnel, j'utilisais toujours un peu d'azote de synthèse. Je l'avais diminué, mais j'avais diminué que d'un tiers. Et aujourd'hui, c'est plus du tout. Alors, ça veut dire que les assolements sont beaucoup basés sur de la légumineuse, qui va chercher son azote dans l'air pour la remettre, pour l'utiliser pour pouvoir produire de la matière carbonée. Et puis c'est aussi de l'apport de d'effluents d'élevage, c'est-à-dire de fumier. Donc je nourris mes sols avec les fumiers que je produis sur mon exploitation, mais aussi des fumiers que j'achète à mes voisins qui aujourd'hui parce que l'azote chimique n'est pas cher, parce que le pétrole n'est pas cher, l'intérêt du fumier n'est pas aussi important quand on est en conventionnel que quand on est en agriculture biologique. Il faut savoir que le prix de l'unité d'azote en conventionnel, c'est 1 euro l'unité. En agriculture biologique, si on doit acheter son azote, c'est 4 euros l'unité. Donc, on est aussi obligé de réfléchir autrement parce que économiquement, on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes enjeux, quoi.
Alors, Jean-Luc, on nous dit en bio, c'est plus de risques parce que les facteurs sont plus impactants, qu'ils soient climatiques ou autres. Et de l'autre côté, on nous dit, ce type d'agriculture, c'est aussi, elle favorise aussi des rendements plus stables. C'est quoi votre avis, vous ?
Alors, on est beaucoup plus lié aux influences du climat. Ça, c'est indéniable. C'est-à-dire que nous, pour avoir une fourniture pour nourrir la plante, il faut que le sol soit chaud et qu'il y ait de l'eau, de l'air, et que ça minéralise. Donc, s'il fait pas chaud, c'est-à-dire si on a un printemps pour des cultures d'été, si on a un printemps froid, on est obligé d'attendre que ça se réchauffe, que le sol se ressuie, et on n'a pas l'engrais chimique qui va faire que la culture va démarrer, même s'il fait un peu froid. Donc, il y a ce premier handicap, et le second, c'est par rapport au désherbage, qui est quand même le plus gros problème en agriculture biologique, en céréales. Et donc là, c'est pareil, il nous faut des périodes sans pluie pour pouvoir se débarrasser des herbes non désirées. Donc voilà, c'est un peu plus risqué de ce côté-là. Après, si on a la météo avec nous, les rendements, on a une stabilité. Il y a certaines productions où on est sur des rendements équivalents aux conventionnels, notamment toutes les cultures de printemps qui sont des légumineuses, certaines cultures comme le tournesol qui n'ont pas besoin de beaucoup d'azote. On est sur des rendements tout à fait équivalents aux conventionnels. Là où on est et on n'arrivera pas à faire le même rendement qu'un conventionnel, c'est tout ce qui est blé. Culture d'hiver, quoi. Là, on est à peu près à 50% du rendement d'un conventionnel. Donc, voilà. Après, les marchés, on est sur des marchés qui sont essentiellement nationaux. Donc, si on arrive à peu près à produire ce que la demande nous demande, on arrive à peu près à réguler l'offre et la demande. Et là, finalement, on n'est pas très en lien avec le marché mondial. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Bien que de plus en plus, on a des importations qui arrivent. Et c'est pour ça que le consommateur doit bien regarder les étiquettes, que ça soit produit au minimum français.
Justement, Jean-Luc, quand on voit la caractéristique de votre exploitation, vous avez quand même fait le choix de la diversification de vos revenus, puisque aujourd'hui, vous avez précisé que vous avez deux élevages donc sur l'exploitation. Et donc, c'est quand même pour vous une diversification par rapport au risque des marchés.
Oui, alors il y a l'élevage qui assure les revenus, notamment il faut le dire l'élevage de canards en filière longue et aujourd'hui une filière qui rémunère encore ses agriculteurs et on espère que ça va durer. Et puis aussi en 2011 j'ai installé du photovoltaïque sur les toits de mes bâtiments et qui sont aujourd'hui un apport qui quand même qui sont importants pour la survie de l'exploitation et aussi permettre de continuer à investir.
Pour nos auditeurs, avec ce recul, est-ce que vous voyez un petit peu des limites par rapport au choix que vous avez fait ? Est-ce que c'est quelque chose qui est facilement reproductible ou vraiment, c'est quand même assez complexe ?
Alors les limites que je vois, c'est des pratiques qui sont très gourmandes en main-d'œuvre et en mécanisation. Donc le prix de la mécanisation, le coût de la main d'œuvre, donc derrière il faut produire et vendre à un prix correct. Donc ça fait partie d'une première limite. La seconde limite, c'est le dérèglement climatique où en fait on peut subir donc comme actuellement des périodes avec où il n'arrête pas de pleuvoir et nous en bio et on est quand même sur des rotations où on fait pas mal de cultures d'hiver et les cultures d'hiver quand il pleut tout l'hiver on sait que derrière on n'aura pas les rendements qu'on peut espérer sur un hiver un peu moins pluvieux. Cela dit, le fait d'avoir pris soin de mon sol et de travailler de cette façon-là, j'ai quand même aujourd'hui des champs par rapport aux champs des voisins qui travaillent autrement qui drainent, et des cultures qui sont encore bien vertes et qui ne présentent pas de carence à aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui va en être d'ici 15 jours, parce que si ça ne s'arrête pas, quoi. Ensuite, le problème de l'été, c'est l'irrigation. On est dans une zone où, si on veut produire sur nos cultures de printemps, il faut irriguer, on n'a pas le choix. Et la problématique, c'est que nous, en bio, on sème plus tard, parce que, comme je l'ai expliqué, il faut semer dans des conditions chaudes. Donc on ne peut pas faire des semis au mois de mars comme les collègues en conventionnel pratiquent, parce qu'il fait pas assez chaud pour nous. On n'a pas l'engrais donc pour faire démarrer les cultures et le désherbant pour maîtriser l'herbe. Donc on sème à partir de la mi-mai, quand il commence à avoir de belles journées bien chaudes, et ce qui fait que on a besoin de l'irrigation jusqu'au mois de septembre, et voire mi-septembre. Le problème dans la vallée de la Dour, c'est qu'on n'a pas de réserve, si ce n'est que le lac Bleu, mais qui est limité. Et donc, au mois d'août, on commence à tirer sur le peu de réserve que l'on a. Et nous, l'agriculture biologique est particulièrement pénalisée par l'absence de réserve pour pouvoir pratiquer cette agriculture-là. Donc ça, c'est une limite. La deuxième limite, c'est la volonté et le pouvoir d'achat des consommateurs, ainsi que des collectivités locales qui ne respectent pas la loi Egalim et qui donc n'intègrent pas dans leur cantine scolaire un approvisionnement en produits locaux et en agriculture biologique.
Jean-Luc, dernière question. On a déjà eu l'occasion d'en parler avec vous. C'était un petit peu la relève, les jeunes, par rapport au modèle et par rapport à la visée d'un projet agricole futur. Et avec la pratique que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez tendance à recommander à un jeune qui veut s'installer aujourd'hui ?
C'est compliqué, mais je pense qu'il faut avoir une vision sur des exploitations qui vont aller chercher de la valeur ajoutée. Donc déjà, c'est compliqué d'aller chercher la valeur ajoutée, parce qu'il faut le client en face qui veuille bien payer cette valeur ajoutée. Mais produire ici dans les Hautes-Pyrénées de la même façon que l'on peut produire en Ukraine, dans des grandes plaines où en fait on ne sera jamais compétitif par rapport aux grands céréaliers mondiaux. Donc avoir une image d'une agriculture locale ou même française qui doit être une agriculture copier-coller d'une agriculture céréalière mondiale, d'après moi, c'est voué à l'échec. Donc il faut aller chercher une valorisation, et il y a encore des secteurs qu'on ne travaille pas trop, nous, en agriculture, notamment tout ce qui est agritourisme. Et puis après, aller sur se diversifier et aller chercher des activités sur l'aval pour pouvoir tenir son exploitation.
Oui, on voit bien que les enjeux économiques sont toujours les mêmes. Il faut aller chercher de la valeur ajoutée, quel que soit le modèle. C'est le défi premier, c'est vendre, et vendre au bon prix pour pouvoir vivre de ces ventes. Mais en même temps, votre défi à vous aussi, c'est quand même justement de pratiquer cette agriculture qui est respectueuse de la vie du sol, et qui permet aussi la décarbonation de nos territoires, parce que, je le répète, l'agriculture est un acteur important dans cette décarbonation. Merci infiniment, Jean-Luc, encore une fois, pour ce beau témoignage. Et puis, à bientôt. Au revoir.
Merci, Benoît. À bientôt.
Voilà pour cette chronique verte de cette semaine, que je vous propose de réécouter sur le site de la radio, radioprésence.com. On se retrouve dans quelques instants pour le coup de cœur en librairie. You're just too good to be true. Can't take my eyes off. Be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Part of the way that I stand, there's nothing else.
Sur le plateau du Larzac, 106.5.
Direction Tournaille, à l'est de la ville de Tarbes, à l'abbaye, où nous allons retrouver le frère Martin pour le coup de cœur en librairie. Il est au micro de Anne-Rose Jankovic.
Bonjour frère Martin.
Bonjour Anne-Rose et bonjour à vous tous qui nous écoutez.
C'est reparti pour une chronique littéraire. Aujourd'hui, vous nous présentez « Leçons de vie, sagesse au fil des jours », un ouvrage de Nicolas Saint-Aubin. C'est un auteur néerlandais qui va nous proposer un livre pour une réflexion, un livre que vous avez trouvé assez idéal pour le temps du carême qui commence.
Oui, tout à fait. Un livre qui est à plusieurs lectures. C'est-à-dire, on peut lire un chapitre et voilà, on est informé. Mais je pense que ce livre m'a paru intéressant parce qu'on peut vraiment faire une pause et on est invité à réfléchir au cœur de chaque chapitre à ce qu'on vit sur telle ou telle réalité. Voilà.
Vous pouvez nous donner des exemples de réalité, justement, voilà, qui nous invitent à réfléchir.
Oui, parler du courage, de la patience, parler de créer et espérer. Ça m'a paru un point très important parce que souvent, si Dieu est créateur, comment moi, en tant que créature, je peux prolonger ce que Dieu m'envoie? Aujourd'hui, là, on lit dans les évangiles que Dieu nous envoie en mission, il envoie ses apôtres, mais comment est-ce que nous, on peut faire quelque chose et créer quelque chose? Et je me rends compte que souvent, on est dans une situation que plus ou moins on subit, mais quelle idée habite mon cœur et quelle idée je peux mettre en pratique pour essayer de créer quelque chose de nouveau.
Donc l'objectif, c'est de réaliser qu'on n'est pas, passif devant le Créateur, mais que le Créateur nous permet, nous aussi, de prendre part au travail.
Tout à fait. On est invité à retrousser ses manches dans la joie. Et il y a beaucoup de chapitres, vous voyez, sur la patience, choisir, la liberté, remercier, le contentement. Voilà, le contentement m'a aussi beaucoup attiré, puisque l'actualité souvent est plutôt négative. Et donc, comment prendre conscience de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui me réjouit, qu'est-ce que je reçois? Et ce chapitre est appelé le sandwich au contentement, parce qu'il fait référence à des gens qu'il a connus, qui avaient, pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui n'avaient pas grand-chose à mettre dans le sandwich. Et donc voilà, mais il y avait quand même du pain, donc je peux quand même manger. Donc comment, avec ce que j'ai et ce qui m'entoure, comment est-ce que je peux saisir qu'il y a quand même des choses, des points positifs, des chemins de vie? Voilà, ça c'est un point qui me paraît intéressant.
Et alors cette espèce de contentement, cette manière de regarder la réalité des choses différemment, c'est ça la sagesse dont il parle dans son sous-titre, sagesse au fil des jours, c'est être sage que de regarder avec peut-être plus de bienveillance la vie?
La sagesse biblique, c'est pas simplement d'être gentil. La sagesse biblique, c'est d'écouter la loi, la parole de Dieu, de la mettre en pratique. Et donc, je trouve que tous ces chapitres sont dans l'esprit de la sagesse biblique qui nous invite à faire quelque chose réellement, quoi.
Est-ce que Nicolas Saint-Aubin nous donne des conseils spirituels ou c'est plutôt une analyse un peu générale ?
Ah non, il donne des conseils, justement, il invite à prendre conscience dans nos vies de ce qui est bon. Par exemple, le chapitre pour dire merci, dire une bonne parole, un bénédictin, comment... Quand je reçois quelque chose, j'en prends conscience, mais est-ce que je vais jusqu'à dire merci à la personne qui a fait quelque chose de bon pour moi ou rendre grâce à Dieu pour ce qui est bon pour moi? Si je relis ma journée, est-ce que c'est un événement difficile qui est là et qu'il faut surtout pas nier, mais est-ce que je peux, malgré un moment difficile, sentir qu'il y a quand même la présence de Dieu, quelqu'un qui m'aide et quelqu'un, ne serait-ce des fois, à qui je peux parler de ce qui m'habite? Et déjà, vous voyez, ça fait regarder les choses autrement.
Et ça nous met forcément en relation avec les autres, l'autre.
L'autre, avec les autres et avec le Seigneur. Et je crois qu'il y a beaucoup de pistes, si elles ne sont pas explicites, qui nous invitent vraiment à la prière, à la méditation, à relire sa vie. Et donc, dans ma vie, il y a aussi le Seigneur.
Et c'est pour ça que vous considérez que c'est un bon ouvrage à lire pour le temps du carême. C'est une sorte d'exercice spirituel qui peut nous accompagner pendant le temps du carême.
Oui, tout à fait. Parce que si le temps de carême nous invite à nous recentrer, souvent, on a peut-être entendu, on a dans l'idée de prendre conscience de notre péché, mais je dirais que relire sa vie, c'est d'abord prendre conscience de ce qui est bon, de ce que Dieu donne. Alors je vais peut-être découvrir qu'il y a des moments où je ne suis pas en phase ou à côté. Mais l'important, c'est de garder ce qui est bon. Et justement, le mercredi des cendres, on brûle des choses qui sont réduites en cendres. Et parce que de là, nous avançons avec le Christ vers sa passion qui, au matin de Pâques, se relèvera d'entre les morts.
C'est un livre que nous pouvons lire de manière aléatoire et qui est accessible à partir de quel âge, enfin pour quel public?
Même un collégien peut lire ça, oui, oui.
Nicolas Saint-Aubin nous propose donc des leçons de vie sagesse au fil des jours. C'est paru aux éditions Loyola, 156 pages, 18 euros le prix du livre et bien sûr un ouvrage disponible à la librairie de l'abbaye Notre-Dame de Tournai.
Voilà, merci à vous et puis bonne réflexion.
Et bon carême, bon début de carême, frère Martin.
Merci à vous, à bientôt.
Voilà, le frère Martin était au micro de Anne-Rose Jankovic. On se retrouve dans quelques instants pour faire un point complet sur l'actualité de notre région avec le journal de la région, juste après Michael Bulbey, Me and Mr. Jones.
Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there, holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so, Jones, Mrs. so much inside, and now she'll go her way and I go mine, but tomorrow we'll meet at the same place, the same time. Me and Mrs.
Très bon appétit. Si vous êtes à table, il est 12h, passé de 32 minutes. Nous sommes en plein cœur de ce Présence Midi avec un très beau rayon de soleil sur la belle ville de Lourdes. Je vous propose de poursuivre le programme avec le journal de la mi-journée.
Présence dans la cité mariale 96.
Bonjour à toutes et à tous. Dès aujourd'hui, l'Envol des pionniers ouvre l'exposition éphémère en hommage au mécanicien Alexandre Coyenneau, fidèle coéquipier de Jean Mermoz. Mécanicien au sol puis à bord, Alexandre est l'un des acteurs phares de l'aventure de l'aéropostale qu'il a marqué par son audace. À travers son histoire, l'exposition met en avant le métier de mécanicien et plus particulièrement d'officier mécanicien navigant. Sans les mécaniciens, il n'y aurait pas eu de ligne, disait Didier Dora, directeur d'exploitation des lignes aériennes Latéco Air à Toulouse. Le musée d'Air France met également en lumière le collectif de femmes et d'hommes piliers de ce domaine. L'abbaye de Flaren à Valence-sur-Baïse lance un grand concours de poésie. Avec environ 35 000 visiteurs par an, l'abbaye est le premier site public touristique du département du Gers. À l'occasion du printemps des poètes, ce concours est placé sous le thème de « La liberté, force vive déployée ». Tous les poètes, confirmés ou amateurs, sont les bienvenus. Il suffit d'être âgé de plus de 16 ans pour tenter sa chance. L'abbaye de Flaren se tient à disposition des participants qui souhaiteraient venir la visiter pour s'en inspirer et découvrir son histoire. Si vous souhaitez participer, les poèmes sont à envoyer avant le 1er mars à l'adresse suivante, alafitte@gers.fr. À Decazeville, les jardins suspendus ouvrent leurs portes au public. Dotés d'une esplanade végétalisée de 300 mètres de long, d'une aire de jeux pour enfants et d'un terrain de pétanque, ces jardins ont été pensés pour tous les publics, y compris pour les personnes à mobilité réduite. Ils s'inscrivent dans la liaison entre le cœur de la ville et le parc intercommunal de la découverte, lancé par le président de Decazeville Communauté, François Marty. Des œuvres de street art ornent des installations dans les jardins et la nuit, une citation « Pense à rêver » est projetée sur un mur de sous-têtement historique des Hauts-Fourneaux. Ce week-end, la station de ski de Luz-Ardiden accueille la première édition du Luz Winterfest. Quelques 6000 festivaliers sont attendus durant les deux journées de cet événement organisé en association avec Énergie, le Rose Festival et NPI qui fête cette année ses 20 ans. Au programme, de la musique électro avec des artistes comme Kavinsky, Bon Entendeur ou encore Feder, le tout couronné par un feu d'artifice dans le ciel des Hautes-Pyrénées. Pendant la journée, les festivaliers pourront profiter des 60 km de pistes de ski, de balades en raquettes et de multiples activités pour bien commencer ses vacances d'hiver.
Et merci à Lou Deleville de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse de nous avoir présenté ces informations. On continue en musique juste avant de retrouver Anne Deslois pour sa chronique solidaire. Juste après, Julien Clerc, si vous voulez bien.
Pour toute la beauté qu'on délaisse, pour les soleils qu'on n'a pas vus, les passions qu'on n'a pas vécues, pour l'ignorance et la paresse. On va, on vient, on rêve, on parle. On va, on vient, on rêve, on parle. On rit, on rit. Je suis venu tendre et stupide hanter la maison du bonheur. J'y suis entré comme un voleur et j'ai trouvé la maison vide. On va, on vient, on rêve, on parle. On va, on vient, on rêve, on parle. On rit, on rit. Tu m'as dit, regarde la lune. Mes yeux n'ont pas quitté ta main. Reste un regret sur mon chemin. Reste un reflet sur la lagune. On va, on vient, on rêve, on parle. On va, on vient, on rêve, on parle. Voir la vie en rose, mais les couleurs sont ce qu'elles sont. On aime à perdre la raison en désespoir de toutes les causes. On va,
Julien Clerc sur Présence.
Radio Présence à Cahors, 92.5.
Au micro de Anne Deslois, aujourd'hui dans sa chronique solidaire, voici Adeline Tesserin, qu'il s'agit du CCFD.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Solidairement Vôtre. Comme vous le savez, c'est une émission qui donne la parole à des acteurs du pôle diaconie du diocèse de Tarbes-Lourdes. Aujourd'hui, notre invitée est Adeline Tesserinck du CCFD Terre Solidaire. Bonjour Adeline.
Bonjour Anne.
Voilà, vous travaillez à la fois sur la région Occitanie, mais aussi en lien avec le diocèse de Tarbes-Lourdes, l'équipe diocésaine entre autres et les équipes locales. Puis vous êtes aussi la responsable d'un lieu d'animation à Lourdes qui s'appelle l'espace Rencontre. Rue du Bourg. Aujourd'hui, si vous êtes notre invité, c'est parce que nous entrons dans la période de carême. Et comme nous le savons, c'est un temps fort pour les chrétiens. Et puis, ce temps de conversion, de partage, de solidarité, bien souvent, c'est le CCFD, Terre Solidaire, qui est l'acteur principal, celui qui est le moteur de cette campagne de carême. Alors, parlez-nous-en. Pourquoi le CCFD Terre Solidaire, un jour, s'est vu confier la campagne de carême?
Alors, pour vous expliquer un peu cela, je vais revenir un peu dans le passé. Dans les années 60, la Conférence des évêques de France a souhaité que l'Église soit porteuse d'un message de solidarité internationale et se mettre au service des gens pauvres dans le monde. Et pour cela, ils ont créé le CCFD Terre Solidaire. C'est pas une association en tant que telle, le CCFD Terre Solidaire. C'est un service d'Église qui regroupe tous les mouvements et services d'Église qui font de l'éducation populaire, de l'action collective.
Donc, en fait, si je comprends bien, le CCFD Terre Solidaire s'inscrit vraiment, ses actions s'inscrivent dans tout ce qu'on appelle la tradition sociale de l'Église catholique.
Tout à fait, c'est exactement ça. Pour porter les enjeux de solidarité internationale, et à toute l'origine, c'était vraiment pour avoir une action forte pour mettre fin à la faim dans le monde.
Alors justement, pourquoi le carême est-il un moment clé de la solidarité internationale ?
C'est un moment clé parce que ça invite les gens pendant une période de cinq semaines à pouvoir se poser à chaque semaine et se poser la question de qu'est-ce que moi je peux faire pour ce temps-là, moi en tant que chrétien, quelle parole je peux porter et quelle action je peux avoir au sein de mon église qui est une église universelle.
Quels sont les grands enjeux de justice ou de solidarité que vous mettez en place au niveau du CCFD Terre Solidaire cette année pour le carême 2026?
Cette année, on fait la continuité de l'an dernier. Ça reste sur la souveraineté alimentaire et on veut garder aussi le lien avec l'année jubilaire que le pape François avait ouverte. Et donc, c'est sur l'espérance. Et on fait un lien pour renforcer ce thème de l'espérance. On a voulu aussi cette année, au CCFD Terre Solidaire, porter ce temps de carême sous le regard de Saint François, puisqu'on fête les 800 ans de la mort de Saint François cette année. Et donc c'était un message fort pour le CCFD de pouvoir, pendant cette campagne de carême, faire du lien entre le message de Saint François et le pape François de l'an dernier.
Alors justement, comment tout ça, c'est ce thème, tout ce que vous portez, vous sentez que ça rejoint les communautés chrétiennes ici en France? Comment les paroissiens, les gens qui fréquentent différentes associations catholiques ou des mouvements et services d'église sentent que c'est avec le CCFD qu'ils peuvent vraiment être des acteurs de solidarité pendant le carême?
En fait, c'est un temps vraiment où généralement, on a quand même plus de place dans l'église, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir des propositions d'animation et des propositions de prière universelle qui sont portées pour nos partenaires. Le CCFD, Terre Solidaire, on lutte contre la faim, mais c'est vraiment pour nos partenaires à l'étranger, c'est-à-dire des associations locales dans les pays du monde qui vivent des situations de difficultés de faim ou de difficultés de justice économique, différents thèmes de ce type-là, la migration, les situations de guerre. Et en fait, pendant ces temps de carême, on se met dans les paroisses pour présenter un de nos partenaires, pour vraiment se rapprocher d'eux et faire que tout est lié ici et là-bas, et que nos actions, elles peuvent être liées là-bas, et ce qu'eux font là-bas peut aussi avoir une implication chez nous.
Alors Adeline, donnez-nous quelques idées, quelques exemples d'initiatives locales qui seront prises au cours de ce carême et que donc certains de nos auditeurs peuvent rejoindre peut-être des paroisses pour vivre justement ce temps de solidarité tellement important au cœur de notre foi chrétienne.
Alors tout d'abord, il y a donc majorité des messes, il va y avoir les intentions de prière qui vont se dire et des équipes vont proposer des temps d'animation. Cette année, en fait, jusqu'à présent, on faisait venir un partenaire. Le CCFD faisait venir un partenaire pour venir témoigner de ce qu'il faisait et de ce que les dons et la générosité du public chrétien pouvaient apporter. Maintenant, pour des questions aussi écologiques, faire venir un partenaire, c'est pas forcément le plus adapté. Cependant, on arrive à c'est une nouveauté, à mettre en place des visioconférences avec un des quatre partenaires qu'on va présenter. Donc, par exemple, en mars, on a une visioconférence le 5 mars avec le partenaire Qatal qui est du Tchad, qui travaille justement sur la question de la terre et de la souveraineté alimentaire. Et il va y avoir ces visioconférences sur plusieurs endroits. Il va y en avoir une à Argelès, une à Campan et une à Sousse. Et en gros, sur ces temps-là, vous êtes les bienvenus. On a une connexion Internet. On est avec le partenaire et on échange une discussion.
Ça sera dans l'église de chacun de ces lieux ou dans des salles paroissiales, vous savez déjà?
Ce sera pas dans les églises, ce sera dans les salles paroissiales ou même dans des salles municipales. Voilà. Il va y avoir des flyers qui vont se distribuer. Mettre en place, distribuer. Et sur le site du CCFD, ce sera aussi relayé.
C'est pour dire que pour ce temps en visioconférence, vous pouvez attendre une centaine de personnes sans problème.
Sans problème.
Il y aura de la place pour tout le monde.
Voilà.
Et alors, donnez-nous un exemple, justement, vous nous parlez de ce partenaire, par exemple, du Tchad. Quel est un autre exemple de partenariat que le CCFD Terre Solidaire soutient particulièrement dans ce carême 2026?
Alors, cette année, il y en a quatre. Il y a Decidamos, qui est un partenaire qui est du Paraguay. Voilà, qui eux luttent, en fait, mettent en place des petites familles qui développent des petits jardins pour pouvoir faire vivre leur communauté. Donc c'est vraiment en opposition avec les cultures intensives, c'est vraiment développer les compétences et les savoir-faire au sein d'une communauté. Après, il y a sur la deuxième semaine, donc c'est Qatal, le partenaire du Tchad, qui lui travaille aussi beaucoup sur la question évidemment de la souveraineté alimentaire, mais surtout lié à l'éducation des enfants et à la situation de guerre qui est là-bas. Le troisième dimanche, ça va être Terre et Humanisme, qui est un partenaire qui vient du Maroc, qui souffrent beaucoup de la question de l'eau et de la sécheresse, donc mettre en place différents modes de production sur lesquels nous on a une attention particulière et où on s'enrichit aussi beaucoup pour voir comment en France après ça peut aussi se partager ce savoir-faire. Et le dernier partenaire qu'on met en lumière pendant cette période de carême, c'est Permatil, et c'est un partenaire du Timor-Leste, donc plutôt en Asie, et qui lui vraiment mobilise les jeunes dans ces projets autour de la souveraineté alimentaire.
Voilà, on entend à travers les présentations courtes que vous nous faites que c'est vraiment les partenaires soutenus par le CCFD Terre Solidaire, c'est vraiment universel, c'est international, sur des projets très concrets liés aux populations locales. Dites-nous, peut-être avant de clore notre émission, comment chacun d'entre nous, chacun de nos auditeurs, comment, à notre échelle, on peut faire un pas de plus vers la solidarité, là où on habite? Alors, il y a bien sûr une collecte, le don qu'on peut faire au niveau pour le CCFD Terre Solidaire, mais quoi encore?
Il y a plein de moyens. Alors, le CCFD Terre Solidaire part du principe que rien ne lui appartient et qu'il partage tout. Donc, même pendant cette période de carême, si un des sujets vous intéresse, un des partenaires vous donne envie, vous allez sur le site national du CCFD Terre Solidaire et là, vous avez toute une page sur la campagne de carême et tous nos outils sont partageables et n'importe qui peut l'utiliser pour en faire la promotion, pour en parler. On a des vidéos de nos partenaires que n'importe qui peut visionner et vous pouvez amorcer sur votre petite ville un temps de rencontre et discuter autour de ça. Vous pouvez vous mettre en lien avec des bénévoles du CCFD de votre région ou prendre contact avec moi pour que je puisse mettre en lien et participer lors de la messe à la collecte, mais aussi écrire les prières universelles où on fait des animations. On peut aussi proposer des animations pour sensibiliser sur le thème de la souveraineté alimentaire, sur le thème de la question de l'eau, sur le thème de comment prendre soin de sa planète. Voilà, on a différentes actions. Donc soit c'est un temps de collecte, soit c'est venir avec nous proposer ces temps d'animation ou participer à la visioconférence qu'il y aura.
Puis bien sûr, on peut bien sûr s'intéresser à la solidarité internationale sans oublier toute la proximité qu'on vit avec les uns, avec les autres. Et on doit être aussi solidaire là dans notre milieu de vie. Merci Adeline pour cet éclairage et puis pour votre engagement au sein du CCFD Terre Solidaire. On vous réinvitera. Bon carême à toutes et à tous.
Merci.
Et merci à vous, Anne Deloye, de nous faire découvrir toutes ces belles actions qui se déroulent autour de nous et que parfois, bien, nous ne voyons pas. On se retrouve dans quelques instants avec Louis Lebondidier, un auteur mis à l'honneur aujourd'hui par Kartnerin Albrecht.
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin, si loin d'ici. Des siècles nous séparent. S'égare, un amour subtil l'a pris, et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie, et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Charme, j'aurais aimé vous plaire, et je désespère de venir un soir. À vos genoux, vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges, et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime.
Bien sûr reconnu, c'était Laurent Voulzy sur Présence.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Du Pays Basque au rivage de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance, leurs aventures dans les fameux sites pyrénéens. Écoutez, voyager, rêver, vibrer, admirer aujourd'hui avec Louis le Bon Didier. Louis et Marc-Ali le Bon Didier arrivent en 1901 à Campan, depuis leur lointaine Lorraine, à l'occasion d'une mutation professionnelle. Ils pensent ne rester que quelques mois dans les Pyrénées, ils y passeront toute leur vie. Tombés sous le charme de la montagne, pyrénéistes reconnus, ils réalisent plusieurs premières et en font les récits dans des revues de montagne et des livres. Tous les deux s'investissent dans les institutions locales et initient leur grand projet, la création du musée pyrénéen, qui verra le jour en 1922 dans les murs du château fort de Lourdes. Louis, qui a fait don de sa riche collection d'objets et d'ouvrages sur les Pyrénées, en sera le premier conservateur. Ce texte est tiré de son roman Fine. Fine tient une auberge dans la vallée d'Ossau, sur la route du col vers l'Espagne, et son mari Firmin est employé à l'entretien de la route. L'ordre de mobilisation générale, 1er août 1914, et la déclaration de guerre 3 août bouleversent soudain la vie paisible des habitants de la vallée. Vers la fin de juillet 1914, une auto de luxe, une Mercedes longue et fine, montant du col, tomba en panne devant l'auberge. Quatre hommes très grands, blonds et tondus très ras, la figure balafrée de cicatrices, sautèrent sur la route, jetant à droite et à gauche des regards inquiets. En hâte, ils réparèrent, échangeant quelques rares observations dans une langue gutturale et rauque. Fine poliment s'approcha, leur proposant de se reposer, de se rafraîchir, de déjeuner. Elle avait des truites de lisard. Ils déclinèrent sèchement sa proposition. L'un d'eux, cependant, lui demanda dans un français très pur et sans accent. « Pardon, madame, combien y a-t-il de kilomètres d'ici au col ?»« 6, monsieur. »« La route est-elle plus mauvaise ?»« Non, monsieur. Je vous remercie. » Ils jetèrent les outils pêle-mêle dans la boîte sans les ranger, puis celle-ci sur un siège arrière. Avant même que les portières aient claqué, le conducteur démarra brutalement et la voiture, comme arrachée du sol, partit à toute allure. Fine, intriguée, essaya de lire le numéro et disparaissait sous une couche épaisse de poussière et de cambouis. Le lendemain et le surlendemain, ce fut un défilé incessant d'auto et d'attelage de toutes sortes. L'exode des familles espagnoles en villégiature aux Aubonnes, qui s'empressaient de rentrer dans leur pays avant la déclaration imminente de la guerre et la fermeture de toutes les frontières qui en seraient la première conséquence. Dans la nuit du samedi au dimanche, des jeunes gens du village frappèrent à la porte. Ils étaient essoufflés, montant en toute hâte prévenir les bergers mobilisables de descendre aussitôt. Vers la fin de l'après-midi, on avait sonné le tocsin et on avait posé sur les murs de la mairie et de l'école les affiches de mobilisation. Toute la journée du dimanche, des hommes descendirent de tous les sentiers de la montagne. Il en vint aussi par le col des Français travaillant en Espagne et rentrant en France pour faire leurs devoirs. Ils s'asseyaient sans rien dire, demandaient du vin, regardaient dans le vague, un instant détendu par la tranquillité, le calme et la paix du site. Puis brusquement, ils vidaient leur verre d'un coup, jetaient la monnaie sur la table et partaient d'un pas morne, sans se retourner. Fine, qui n'était pas sentimentale, cependant, avait les larmes aux yeux en les voyant descendre vers un tel destin. Combien remonteraient et s'arrêteraient à l'auberge à l'heure du retour ? À travers les mots, les regards inspirés par nos belles Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent de Louis le Bon Didier. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées » inspirant tous mes récits.
Une chronique qui nous est proposée toutes les semaines par Catherine Albrecht. C'est la fin de ce Présence Midi. Je vous laisse pendant 3 minutes en compagnie de Diana Panton. Juste vous rappeler le rendez-vous cet après-midi de la prière à 15h30, une prière du chapelet méditée pour toutes vos intentions en direct de la grotte de Massabielle au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Très très belle journée à vous tous. Talk about a moon floating in the sky, looking like a lily on a lake. Talk about a bird learning how to fly, making all the music she can make. Happy talk, keep talking, happy talk. Talk about things you'd like to do.
talk happy and you never have a dream, then you'll never have a dream come true.
À Gourdon, 104.8.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Journée de jeûne et de prière en France à l'appel des évêques, alors que la loi sur la fin de vie est en discussion depuis